Bonsoir et bienvenue dans l'écho de l'été. Chaque samedi de l'été, nous recevons un acteur important de l'économie ou un économiste pour nous aider à comprendre ce que nous vivons et évoquer les enjeux qui sont devant nous. La semaine dernière, nous recevions Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne. Et cette semaine, nous accueillons Carlos Tavares, le dirigeant de Stellantis, le groupe issu de la fusion entre PSA et Fiat. Bonsoir Carlos Tavares.
Bonsoir.
Vous allez répondre à mes questions, puis à celles d'étudiants ou de jeunes actifs qui sont ici avec nous dans le studio. Aujourd'hui, ils viennent de l'école de journalisme de Sciences Po Paris, de l'INSA de Rouen, et l'un est passé par l'école centrale. Il travaille aujourd'hui.
L'écho de l'été, Dominique Seux, sur France Inter.
Merci à vous, Carlos Tavares. Alors, vous êtes un ingénieur formé à l'école centrale à Paris. Vous êtes entré à 23 ans en 1980 dans le groupe Renault. Vous êtes resté de longues années jusqu'à devenir le numéro 2 du groupe, dirigé alors par Carlos Ghosn. Vous avez rejoint en 2014 le groupe PSA, qui est devenu Stellantis, après sa fusion avec Fiat, c'était il y a quelques mois. Vous avez redressé l'entreprise, vous avez racheté Opel en 2017 à General Motors, et vous menez la fusion avec Fiat. Votre groupe, 14 marques, occupe la 6e place mondiale, avec plus de 6 millions de véhicules vendus en 2020. On va beaucoup parler de voitures et de votre groupe, mais une question presque personnel pour commencer, qui concerne les étudiants et les jeunes actifs qui sont avec nous, qui démarrent dans la vie professionnelle. Au fond, jusqu'où faut-il afficher ses ambitions? Alors, je m'explique. En août 2013, vous avez déclaré dans une interview, à un moment donné, je vous cite, « Vous avez l'énergie et l'appétit pour devenir le numéro un. Mon expérience serait bonne pour n'importe quel constructeur auto. » Vous étiez numéro 2, Carlos Ghosn n'a pas apprécié. 15 jours après, vous avez quitté l'entreprise, vous avez fait vos bagages. Est-ce que l'ambition est un bon moteur?
L'ambition est un moteur qui génère du progrès. Et l'ambition, je pense, on peut répondre oui, c'est un bon moteur, à condition que ça débouche sur des améliorations qui sont quelque part des améliorations nobles par rapport à l'objectif qu'on se fixe. Si l'objectif qu'on se fixe est d'emmener une entreprise d'un certain niveau à un niveau meilleur de pérennité, de qualité, de visibilité. Oui, l'ambition, c'est un bon moteur.
Et donc, vous conseillez, vous invitez les jeunes générations à dire, soyez moteur, ayez de l'ambition dans votre moteur.
Alors, incontestablement, oui. Incontestablement, oui, et sans aucune hésitation. Ce qui reste à définir, c'est le pourquoi. Pourquoi est-ce que l'ambition est un bon moteur? C'est pour faire quoi? Pour améliorer quoi? Pour résoudre quel problème, pour faire en sorte que telle ou telle situation évolue dans la bonne direction. Donc oui, j'encourage absolument les jeunes générations à faire preuve d'ambition et à exprimer ce qu'ils veulent faire de cette ambition. Et en quoi est-ce que cette ambition va permettre d'améliorer les choses dans tel ou tel domaine qui reste évidemment leur décision.
Alors, pour commencer, je pose la même question à peu près à tous les invités. Que nous a appris cette crise, au fond? Même au-delà de l'automobile, et s'il fallait dire en quelques secondes ce qu'on peut retenir, qu'est-ce qu'on dira dans 20 ans, en fait, de tout ce qu'on a vécu?
Alors, ce sujet est savoureux, parce que je vais commencer par un peu d'ironie. Cette crise nous aura appris que l'automobile n'est pas essentielle.
Oui.
Ce que je conteste
ça commence
totalement.
Très bien.
Ce que je conteste totalement. L'automobile fait partie de la liberté de mouvement. Et la crise nous a aussi appris que la liberté de mouvement et la liberté tout court, c'est essentiel. Nous avons tous appris que la liberté de se déplacer avait une grande valeur, puisque quand nous en étions privés, nous en souffrions. Et donc, ce qui aujourd'hui nous permet, d'une certaine manière, d'assurer cette liberté de mouvement, c'est l'usage d'un objet qui s'appelle l'automobile.
Donc on a souffert tous collectivement par le manque.
Voilà, donc on a découvert la valeur de la liberté de mouvement. Et tout en disant, d'un côté, pour des raisons sanitaires que nous comprenons tous, que l'automobile n'était pas essentielle, on a en fait découvert que oui, l'automobile est essentielle, puisqu'elle assure cette liberté de mouvement à laquelle nous tenons tant. Mais je trouve que c'est quelque part une découverte qui est très savoureuse. C'est-à-dire qu'en étant privé de liberté, nous avons découvert la valeur de la liberté. Et on a découvert qu'un des objets qui nous permet d'assouvir cette envie de liberté, c'est l'automobile.
Mais est-ce que les générations les plus jeunes ne sont pas un peu plus éloignées que les précédentes de la voiture, j'allais dire, comme objet social? On entend souvent que finalement, c'est les téléphones portables qui sont devenus un peu l'objet social de référence différemment des voitures, non?
Oui, si.
C'est vrai ou c'est pas vrai?
C'est tout à fait exact. C'est d'ailleurs pour ça que les automobiles sont connectées. Pour cette raison-là, exactement. Mais non, c'est tout à fait juste. L'automobile est de moins en moins un objet de statut social. Et c'est très bien comme ça, puisque c'est la vie des sociétés dans lesquelles nous opérons. Pour autant, nous n'avons pas aujourd'hui effacé les attentes qui sont derrière l'usage de l'automobile, des attentes de sécurité, d'agrément, de confort, de liberté. Tout ça, c'est là. Tout ça, c'est des besoins que l'être humain continue d'exprimer. Et j'en veux pour preuve les progrès qui ont été faits depuis 20 ans sur la sécurité, maintenant sur la connectivité, sur la réduction des émissions, demain sur la dimension du véhicule autonome pour rendre du temps de qualité aux usagers. Donc tout ça fait que ce besoin de liberté de mouvement persiste et que les raisons fondamentales qui sont derrière n'ont pas changé. Maintenant qu'on puisse discuter de savoir s'il doit être plus ou moins connecté, si on doit le posséder ou simplement s'en servir, tout ça c'est ouvert et ça débouche sur des modèles d'affaires qui peuvent évoluer dans le temps.
Et qui vous conviennent les uns et les autres. C'est-à-dire vous allez trouver votre place dans les modèles quels qu'ils soient au fond. Il y a de la place pour...
C'est une question d'agilité. À partir du moment où vous franchissez le cap mental de vous amuser avec le changement, vous n'avez pas peur du changement. Et c'est ce que j'essaie de partager avec mes équipes, c'est que le changement, c'est amusant. C'est amusant et c'est compétitif. C'est-à-dire que ce qu'on constate aujourd'hui avec l'électrification de la mobilité, c'est comme un championnat du monde de Formule 1 où lorsqu'il y a un changement de réglementation, toutes les équipes repartent du même point. Et donc chacun a la possibilité de se repositionner dans le peloton parce que le changement de réglementation lui permet de se repositionner.
Mais c'est un peu darwinien en même temps quand même. À chaque fois qu'on se remet sur la ligne de départ, il y a ceux qui gagnent et ceux qui perdent. Évidemment, vous vivez une révolution absolument incroyable. C'est-à-dire le moteur thermique, c'est quoi? Le premier moteur thermique, 1883, Paris-Joinville, 18 kilomètres. Là, un siècle. Un siècle et demi plus tard, cette page va petit à petit se tourner et se refermer même. Et donc, vous passez sur l'électrification. Vous avez présenté ce jeudi le grand plan de basculement électrique de PSA. Comment vous pouvez le résumer et le qualifier en parlant de voiture? C'est-à-dire pour tous les gens qui sont dans leur voiture à l'heure où nous parlons, et quelles sont les grandes lignes de force?
Nous allons développer 4 plateformes en langage courant, 4 châssis dédiés à des véhicules électriques qui, en fonction de leur taille, vont offrir une autonomie qui va de 500 km à 800 km. 800 km, c'est à peu près l'autonomie des bons véhicules thermiques aujourd'hui. Donc,
Et vraiment, c'est-à-dire que ce n'est pas le truc qui est affiché sur le prospectus, mais dans la réalité, on s'aperçoit que c'est 150 km péniblement. Non, réellement 500
km. Là, je vous parle de la seule chose que je peux évoquer, c'est-à-dire ce qui est normalisé sous la forme du fameux cycle WLTP, je m'excuse pour le jargon, mais il y a effectivement une normalisation européenne qui nous impose de parler avec ces chiffres-là, sans quoi effectivement le consommateur ne pourrait pas s'y retrouver. Donc je parle de ces cycles-là. Il était aussi vrai que, en tant que conducteur, nous avons à apprendre un meilleur usage de l'énergie embarquée dans le véhicule et que ça passe par tout un tas de technologies de récupération d'énergie et de modes de conduite aussi qui permettent d'augmenter cette autonomie. Donc nous avons besoin d'associer aux véhicules électriques évidemment des batteries très performantes avec des niveaux de chimie qui soient très élaborés, ce sur quoi nous travaillons puisque nous allons créer 5 gigafactories dans le monde entier dont 3 à minima en Europe pour produire ces batteries de manière à ce qu'on soit plus dépendant des fournitures asiatiques.
Celle de Douvrin, donc.
Douvrin, Kaiserslautern et très probablement une troisième usine en Italie. Et donc nous allons pouvoir concevoir, fabriquer ces batteries sur le sol européen pour fournir les véhicules qui seront vendus sur le marché européen. Tout ceci va se traduire par un effort d'investissement considérable, puisque sur les 5 prochaines années, Stellantis va investir pas moins de 30 milliards d'euros, ce qui est absolument considérable. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il n'y a aucun doute dans l'esprit de qui que ce soit sur le fait que nous avons complètement changé de direction, ce qui est aussi une responsabilité pour tous les acteurs qui nous entourent.
Ça fait combien de véhicules d'ici, alors je ne sais pas quel est votre horizon, 2025-2030, ça fait combien de véhicules électriques que vous allez présenter?
En 2025, c'est-à-dire après-demain, en 2025, 98% de nos modèles sur nos 14 marques iconiques seront électrifiés. 98% des modèles. Ça veut dire que pour chacun des modèles de nos marques, vous aurez à minima une version électrifiée. Elle peut être soit hybride, soit pure électrique, mais vous aurez 98% des modèles électrifiés en 2025.
Et la répartition entre le pur électrique et l'hybride, c'est...
Elle sera en gros de 80-20 à cet horizon-là. Et je peux vous dire que nos prévisions de vente de véhicules électrifiés en 2030, elles sont de pas moins de 70% de véhicules électrifiés en Europe et pas moins de 40% de véhicules électrifiés aux États-Unis. Donc on est bien engagé et on va basculer totalement sur cette gamme de véhicules d'ici 2025, c'est-à-dire après-demain. Et évidemment, ce que nous appelons de nos vœux aujourd'hui, c'est que la densité du réseau des bornes de chargement accompagne cette croissance. Mmh. Et ça, ce n'est pas de la responsabilité des constructeurs automobiles. C'est de la responsabilité
des pouvoirs publics, là aussi, d'être actifs, peut-être plus actifs qu'ils ne le sont aujourd'hui.
Nous leur demandons d'accélérer. D'abord, il faut s'assurer que les investisseurs privés qui voudraient se lancer dans la mise en place de ces réseaux de chargement puissent y trouver leur compte. C'est aussi simple que ça. Ce qui pose la question de quoi ? Ce qui pose la question du prix de l'électricité. Ce qui pose la question de quoi ? Des taxes et la question du mix énergétique. Et vous voyez, ce qui est passionnant dans cette transition énergétique sur la mobilité, c'est que on ne va pas pouvoir faire l'économie de la discussion sur le mix énergétique.
Et donc, effectivement,
et
la
ça,
question
c'est
énergie nucléaire...
Renouvelable, nucléaire, fossile, etc. Et donc, ce qui est passionnant, c'est que dans la mesure où nos véhicules sont maintenant investis, dans la mesure où, au moment où je vous parle, j'ai 30 véhicules électriques en vente, 30 véhicules différents, dans la mesure où, en 2025, 98% de mes modèles seront électrifiés, la question qu'il faut se poser, c'est... Qu'est-ce qui manque maintenant au consommateur pour franchir le pas ? Nous allons lui offrir l'autonomie. Le consommateur, il veut voir des bornes de chargement.
Et il veut voir les prix.
Et il veut voir le prix final de l'électricité.
De l'électricité, mais aussi des véhicules électriques qui sont plus chers aujourd'hui, et nettement plus chers que les véhicules thermiques. Aujourd'hui, le marché électrique est très soutenu par des aides publiques.
C'est fondamental parce que, d'un point de vue de la dynamique de nos démocraties, nous avons besoin de protéger l'accès des classes moyennes aux véhicules neufs, puisque ça représente quelque part une étape d'amélioration de la qualité de vie de nos citoyens. Et donc protéger l'accès aux véhicules neufs des classes moyennes, ça suppose effectivement que l'on garde des niveaux de prix, j'allais dire, comparables à ceux d'aujourd'hui. Pour y arriver, il va falloir beaucoup progresser sur les coûts, puisque actuellement un véhicule électrique, ça coûte environ 40% de plus qu'un véhicule conventionnel. Et donc, il faut absorber ces 40% de coûts supplémentaires par l'ingénierie, par la manière dont nous concevons nos véhicules et aussi par les effets volumes. Si vous me demandez à quel moment est-ce que les courbes vont se croiser, à quel moment est-ce que les coûts de revient des véhicules électriques pourront atteindre le niveau des véhicules thermiques aujourd'hui, d'après nos prévisions, c'est en 2026 que ça va se produire.
D'accord. Le patron de Volkswagen a dit récemment dans une interview à un confrère allemand, il a dit « ce sera de toute façon bien avant 2030 ». Ça correspond à peu près à ce que vous dites.
On est tous sur le même ordre de grandeur, puisque nous partageons tous les mêmes courbes de décroissance du coût.
Et donc en 2026, les Français pourront acheter un véhicule électrique d'entrée de gamme à quel prix ?
Au prix du thermique aujourd'hui,
c'est-à-dire
il est aux alentours de 15 000 euros.
Aux 15 000 euros, y compris évidemment l'aide publique.
Alors, pour le client, sans aide publique en 2026.
Voilà.
Puisque l'objectif, c'est de faire en sorte qu'on n'ait pas besoin d'utiliser l'aide publique. De toute façon, nous savons tous que l'aide publique, elle ne va pas tenir entre 2021 et 2026. Tout simplement parce qu'on ne voit pas comment on pourrait financer tout ça.
Emmanuel Macron doit rendre un arbitrage d'ici la fin de ce week-end, d'ici lundi, sur à quelle date en France les véhicules thermiques seront interdits, neufs seront interdits à la vente. On sait que le 14 juillet, la Commission européenne va probablement dire qu'en 2035, ce ne sera plus possible, en laissant peut-être dans le flou la question des hybrides. Vous demandez à Emmanuel Macron, vous, grand constructeur automobile, de rester sur la date actuelle française, 2040, où vous dites c'est possible de s'aligner sur la recommandation de la Commission européenne qui est 2035, et dans ce cas, y compris les hybrides ou pas les hybrides.
Je pense qu'il faut être d'abord essayer de dépassionner le débat sur ce sujet-là, puisque nous sommes ici pour traiter un sujet qui s'appelle le réchauffement climatique. Et donc ce qui compte, c'est d'abaisser le niveau des émissions en tonnage. C'est-à-dire, c'est la quantité de tonnes de CO2 émis qu'il faut réduire. Et donc, nous voyons bien qu'il y a un équilibre à trouver entre ce qu'on pourrait appeler l'élitisme du zéro émission par rapport au pragmatisme de la réduction rapide des émissions de CO2 des véhicules thermiques. Et donc là, il y a évidemment à réfléchir à quelle vitesse on veut arrêter le véhicule thermique, en particulier si on se donne les moyens de remplacer des véhicules thermiques anciens par des véhicules thermiques modernes et électrifiés, qui ont le bon goût d'être abordables, donc achetables par le plus grand nombre, et ils ont le bon goût de faire un pas très significatif en réduction des émissions en tonnage, puisqu'ils se vendent en grand nombre. Inversement, si on ne va que dans la direction de l'électrique très rapidement, on prend le risque d'avoir une mobilité qui est élitiste, qui pose des problèmes sociaux, comme nous pouvons le...
La fermeture des fonderies, tous ceux qui fabriquent des réservoirs, des pots d'échappement, etc.
Et donc la date d'arrêt de vente des véhicules thermiques, elle a un impact sur la brutalité d'arrêt de toutes ces activités.
Donc si je comprends bien, je traduis, vous dites peut-être 2035, mais il faut quand même que ce soit un 2035 souple, élargi, avec pas mal de gammes hybrides.
En matière de transition énergétique, nous sommes à fond. Donc à partir du moment où Stellantis est à fond et que les réacteurs sont poussés à fond et qu'on est
vous
en train de décoller...
Vous pouvez vous adapter au terrain.
Nous, ce qu'on dit, c'est que la date d'interdiction de vente des véhicules thermiques, elle n'a pas d'incidence sur la rapidité de transition vers l'électrique, mais elle a une incidence sur la brutalité d'arrêt des activités
D'accord.
thermiques. Et donc c'est plutôt une question sociale qu'une question d'adaptation des constructeurs par la technologie que, de toute façon, nous vendons déjà aujourd'hui. Donc... cette question-là, moi, je la traiterai avec pragmatisme et surtout, j'éviterai les positions dogmatiques parce qu'il n'est pas utile de faire, d'imposer de la brutalité à tous ceux qui ont apporté de la richesse à nos sociétés depuis un siècle. Je ne pense pas que ce serait la bonne façon d'aborder le problème. Donc, moi, je pense qu'il faut être pragmatique. Bien sûr que 2030, 2035, ça nous laisse le temps de nous adapter. 2040, encore plus. Et donc, nous faisons ça. Ce que nous devons tous comprendre, c'est que c'est bon. Nous avons pris le virage.
Vous avez compris le message.
Nous avons pris le virage.
Vous avez compris le message climatique et vous prenez
voilà,
le virage.
Donc,
deux questions avec des réponses très rapides avant de passer la parole aux étudiants. Quelle est la conjoncture aujourd'hui, cet été, pour l'automobile?
Bah, écoutez, la conjoncture, elle est excellente. Nous avons un carnet de commandes qui est une véritable merveille. Vraiment. Et des commandes qui sont en forte croissance par rapport aux années précédentes. Pour une raison simple, c'est que nous avons tous découvert la valeur de la liberté de mouvement.
Est-ce que les Français un jour seront au niveau des Allemands ou pas?
Pourquoi ils ne le seraient pas?
Bah parce qu'il y a une tradition allemande et une avance allemande. Vous parliez de 30 milliards d'investissements pour vous. Volkswagen, c'est 100 milliards.
Oui, peut-être. Peut-être, mais ça ne se mesure pas en nombre de milliards. Ça se mesure en efficience d'utilisation de l'argent dépensé, comme nous le savons très bien. Et là, nous avons au moins un avantage de 30% par rapport à nos compétiteurs. C'est-à-dire que pour un même montant investi, nous obtenons 30% de plus que nos compétiteurs. Donc nous avons dans notre ADN une efficience dans l'utilisation de nos investissements qui nous conduit à de meilleurs résultats. Mais pour finir sur votre question, donc les carnets de commandes sont merveilleusement pleins. Nous avons malheureusement une incapacité à les satisfaire tous immédiatement puisque nous avons une crise de fourniture des semi-conducteurs dans le monde entier, dont vous avez déjà fait l'écho, qui limite notre capacité de production. Donc nous sommes dans une période inflationniste.
Merci d'avoir répondu à mes questions. Dans quelques instants, eh bien, les étudiants vous poseront leurs questions juste après une pause musicale.
D'amour sans amour, de pas beaucoup d'eau fraîche. Toujours percé par ta flèche. Bang, 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 bang. Mes larmes un peu sèches. Ça tourne, ça tangue. Mais j'ai gardé la pêche. Souviens-toi l'été dernier. Tu as disparu. Tu m'avais pas bien vu. Souviens-toi l'été dernier, l'amour est perdu. J'ai caché aux autorités que je t'avais. cœur sous les vents, alertant le vent. Tu m'oublies sûrement. D'amour sans amour, de pas beaucoup d'eau fraîche. 100 fois percé à jour, j'ai vendu la mèche. De larmes, de sueur, de sang, ceci est mon corps. Si j'y d'accord l'enfant que j'étais hier encore. Souviens-toi l'été dernier, tu as disparu. Ce n'était qu'un CDD, je n'avais pas bien lu. Souviens-toi l'été dernier, l'amour est perdu. J'ai caché aux autorités que je t'avais perdu, et pas que de vue.
C'était Benjamin Biolay, Souviens-toi l'été dernier.
L'écho de l'été sur France Inter.
Je passe la parole tout de suite à Guillaume Todesco, qui est un centralien qui travaille actuellement chez Nexter, où il est responsable obsolescence du char Leclerc. Guillaume.
Bonjour Monsieur Tavares.
Bonjour.
Merci de répondre à nos questions. Donc la première en fait concerne donc le groupe Stellantis qui regroupe 14 marques iconiques effectivement de véhicules. J'aimerais savoir en fait votre vision sur le positionnement de chacune d'entre elles. Est-ce qu'il y a des regroupements, des disparitions, voire peut-être des créations de marques sont prévues à court ou moyen terme?
Le positionnement, qui est une question qui m'est souvent posée, n'a jamais été un problème. Car lorsque vous avez des patrons de marque qui sont des gens visionnaires, ils sont choisis comme tels, ils ont une idée très précise de ce qu'ils veulent pour leur marque. Et nous avons un tel champ à couvrir en matière de marché, à la fois le marché nord-américain, d'Amérique latine, européen, asiatique, que la question de la couverture de ces marchés face à 14 marques est toujours une question assez normale. C'est-à-dire que on arrive toujours à la conclusion que quand on veut aller sur un nouveau marché, on va en utiliser 3 ou 4. Et donc, on va commencer par débarquer sur ce marché avec un nombre limité de marques. Puis après, progressivement, on va couvrir le marché. On n'a jamais eu de problème de positionnement relatif. Et d'ailleurs, nos clients nous le confirment. Une Peugeot est très différente d'une Citroën, qui elle-même est très différente d'une DS, qui elle-même est très différente d'une Alfa Romeo, d'une Opel ou d'une Maserati, bien entendu. Donc, c'est pas une question que je suis amené à traiter, cette question-là. Par contre, ce que je traite en permanence, c'est jusqu'à quel point est-ce que les patrons de marque et leurs équipes maîtrisent le positionnement et leur capacité d'expression du positionnement de leur marque pour le faire comprendre d'abord à nos réseaux et ensuite à nos clients. C'est cette question-là qui se pose. C'est la clarté, la précision d'expression du positionnement de la marque. Mais nous n'avons pas de problème de positionnement. Pour une raison très simple, c'est qu'il y a des centaines de marques dans le monde entier. Et donc, nos 14 marques dans ces centaines de marques-là...
Il y a de la place pour tout le monde.
Il y a de la place pour tout le monde.
En tout cas, une question que vous avez vous posée, effectivement, donc ça concerne l'électrification du parc de véhicules. Mais j'aimerais avoir plus de précision, en fait, sur la partie hydrogène. On en entend beaucoup parler, comme l'énergie du futur, mais elle est actuellement hautement carbonée du fait de sa production. D'autres concurrents, comme Toyota, s'intéressent à ce type de technologie et d'énergie, développent des moteurs à injection à hydrogène. J'aimerais savoir donc votre vision pour le futur de l'hydrogène dans la filière automobile et aussi quel rôle votre entreprise peut jouer dans ce domaine.
Je pense que la technologie de l'hydrogène est très intéressante, raison pour laquelle nous lançons cette année, en 2021, notre premier véhicule utilitaire qui sera un véhicule de taille moyenne sur la base du Peugeot Expert et du Citroën Jumpy. Nous lançons nos premiers utilitaires hydrogène en 2021, à la fin de cette année. Donc vous voyez que ça fait maintenant au moins 4 ans que nous y travaillons et nous avons atteint un niveau de maturité qui nous permet de le commercialiser. Nous pensons que ça va être surtout intéressant pour les véhicules utilitaires, car les bornes de chargement d'hydrogène sont assez coûteuses en investissement. Mmh. Et donc, je pense que le modèle d'affaires, il s'adresse à des flottes qui reviennent à un point fixe tous les jours. Et sur ce point fixe-là, vous pouvez investir une borne de chargement puisqu'elle va être utilisée par l'ensemble de la flotte qui revient au point fixe tous les jours. Et donc, ça va être au début une utilisation centrée sur les flottes. Et puis ensuite, on va voir comment ça va se développer. Ce qui est très intéressant, c'est de savoir que nous allons avoir une offre électrique pure sur ces véhicules utilitaires. Et pour le même véhicule utilitaire, vous allez avoir du thermique, de l'électrique pure et de l'hydrogène.
J'avais une question sur la relocalisation, parce qu'effectivement, on produit des véhicules à la fois en France, mais également à l'international. Pourquoi ne pas relocaliser la production de tous les segments de vos véhicules en France ?
Pour une question de prix, tout simplement. C'est que c'est tout à fait possible, à condition que nos consommateurs acceptent de payer les écarts de compétitivité qui existent entre les sourcings actuels et un sourcing, on va dire, domestique.
Parce que les outils peuvent être communs.
Bien sûr, il y a des avantages dans les deux sens. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en prix total de revient, il y a des écarts conséquents. Si nos consommateurs sont prêts à payer cet écart-là, il n'y a aucun problème. S'ils ne le payaient pas, ce qui se produirait, c'est qu'on mettrait l'entreprise en difficulté. C'est mon rôle de mandataire social d'éviter ça. Aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, nous sommes là pour assouvir les attentes de nos clients. Et nos clients ont des attentes très précises en matière de prix.
Merci.
Une question maintenant, des questions de Pierre Hardy, qui est actuellement à l'école 42 d'informatique, mais qui est aussi étudiant à Sciences Po, à l'école du journalisme de Sciences Po Paris, qui se destine au data journalisme.
Bonsoir, monsieur Tavares.
Bonsoir.
J'ai moi aussi quelques questions à vous poser. Vous en avez un peu parlé tout à l'heure, mais aujourd'hui, les véhicules électriques sont très chers. Concrètement, qu'est-ce que vous proposez à des jeunes qui sont soucieux de réduire leur empreinte écologique, mais qui n'ont pas nécessairement les moyens d'investir dans un véhicule électrique neuf?
Aujourd'hui, pour faire simple, si vous parlez d'un véhicule compact, vous avez d'un côté un véhicule conventionnel que vous pouvez acheter à 15 000 euros, je pars du neuf. De l'autre côté, un véhicule électrique de taille équivalente que vous achetez 30 000. Ça vient du fait que le coût de revient d'un véhicule électrique, il est au moins 40% supérieur au véhicule thermique. Je vous rappelle que le choix de la technologie électrique, il a été fait par les États. C'est important que vous le sachiez. Autrement dit, ce sont les États, et donc vos représentants, qui ont fait le choix des véhicules électriques, dans l'expression de leurs objectifs qui n'étaient atteignables que grâce à ces technologies-là. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour ramener ces prix à des niveaux abordables ? Ben, on va d'abord travailler énormément sur la réduction des coûts et sur la productivité à l'intérieur de l'entreprise, ce qui est le sujet permanent de discussion avec nos partenaires. Et nous allons également faire en sorte que l'effet volume s'exprime de la manière la plus conséquente, y compris au travers de la fusion entre FCA et PSA, qui donne à Stellantis une taille qui lui permet d'avancer plus vite sur la réduction des coûts au travers de l'effet volume. Ça, c'est un travail qu'on va faire entre maintenant et 2025. Comme j'ai dit tout à l'heure, je pense qu'à partir de 2026, le prix des véhicules électriques sera à peu près équivalent à celui d'un véhicule conventionnel. D'ici là, la proposition que nous faisons, c'est de conjuguer à la fois la dimension abordable et la forte progression en matière de réduction des émissions, en utilisant une technologie que nous appelons le mild hybride, c'est-à-dire l'hybridation douce, qui permet de préserver un prix quasi identique à celui d'aujourd'hui et de faire des bons de réduction d'émissions de CO2 par rapport notamment à la flotte qui roule actuellement sur nos routes. Mais ça suppose une chose qui est importante, et vous, en tant que jeune, vous avez votre mot à dire, ça suppose de ne pas être dogmatique. Ça suppose de considérer que on peut faire la transition en améliorant le thermique avec une hybridation et avec une électrification légère qui préserve la dimension abordable tout en faisant des pas très importants en matière de réduction des émissions de CO2. Et comme ce sont des prix abordables, l'impact en tonnage de CO2, il est très favorable à l'environnement. Mais ça suppose qu'on ne soit pas dogmatique et qu'on soit suffisamment intelligent pour conjuguer les deux dimensions de l'exercice, le mal hybride et l'électrique pure.
Une autre question, Pierre.
Aujourd'hui, l'industrie automobile, c'est un secteur qui détruit beaucoup d'emplois. Ça va probablement pas s'améliorer avec la transition énergétique, comme vous l'avez dit. D'après certaines projections, le passage à l'électrique pourrait entraîner la disparition de 100 000 postes dans le secteur de l'industrie automobile en France d'ici 2035. Est-ce que c'est inéluctable ? Qu'est-ce que vous proposez par rapport à ça ?
C'est la conséquence directe des attentes des consommateurs et des décisions qui sont prises en matière de réglementation. Le schéma est assez simple. Là encore, en tant que jeune, vous aurez votre mot à dire là-dessus. Vous avez un marché européen qui est grand ouvert. C'est le principe même. Nous avons un marché de 500 millions de consommateurs qui est ouvert. Donc la pression...
Et on sait que des véhicules chinois peuvent
absolument
arriver, et ils sont en train d'arriver.
Et pas que chinois, mais en particulier chinois. Donc le marché est grand ouvert. Donc vous avez une pression sur les prix qui s'exerce en permanence pour le plus grand bénéfice des consommateurs. Et nous savons qu'au cours de ces dernières décennies, la direction prise par l'Union européenne était de garder le marché ouvert pour que ça bénéficie au pouvoir d'achat des consommateurs européens. Pendant que vous gardez le marché ouvert avec cette forte pression sur les prix qui bénéficie aux consommateurs, vous avez une inflation réglementaire qui est absolument considérable, qui, pour chacune de ces lignes, est parfaitement souhaitable, la sécurité passive, les émissions, la connectivité, etc. Et donc ce coût réglementaire, cette inflation réglementaire, conjuguée avec une forte pression sur les prix, réduit les marges des entreprises. À partir du moment où vous réduisez les marges des entreprises par ce mécanisme, vous devez reconstituer vos marges avec de la productivité. Et soit vous générez cette productivité avec des idées de plus en plus pertinentes, et à ce moment-là, tout va bien, soit vous n'arrivez pas à générer cette productivité, et donc vous êtes dans une restructuration lente mais permanente qui génère les effets que vous avez évoqués. C'est un modèle de société. Il faut s'accorder sur ce que vous voulez. Il faut s'accorder sur est-ce que vous voulez bénéficier des meilleurs prix en générant une concurrence qui est la conséquence des frontières grandes ouvertes de l'Union européenne, ou est-ce que vous préférez quelque part protéger un modèle de société avec moins d'érosion d'emploi, comme vous l'avez à fort juste titre souligné, et à ce moment-là payer un peu plus cher un certain nombre de biens de consommation et donc avoir un mode de vie un peu différent par rapport à ces biens de consommation. Donc c'est plus un débat de société qu'un débat d'industrie automobile.
Je passe la parole maintenant à Zineb Rahoui, qui est diplômée de l'INSA Rouen, étudiante en master spécialisée en sciences des données.
Bonsoir, Monsieur Tavares.
Bonsoir.
Alors, ma première question concerne les voitures hybrides. On a montré que celles-ci émettent beaucoup plus de CO2 que ce qui est annoncé à l'achat. Ma question est alors, est-ce que vous pouvez expliquer comment est-ce qu'on obtient ces résultats et finalement comment l'acheteur peut vous faire confiance à l'achat d'un véhicule hybride?
D'abord, il faut que vous sachiez que nous vivons, j'allais dire pour le meilleur comme pour le pire, dans un environnement qui est fortement normé. Lorsque vous vendez un produit, ça peut être une automobile, ça peut être un réfrigérateur, ça peut être une télévision, quand vous annoncez les performances de ce produit, vous devez les annoncer dans le cadre d'une réglementation et d'une norme. C'est-à-dire que le fabricant n'a pas le choix sur la manière dont il doit mesurer la performance qu'il communique à son client. Alors, on peut penser que ça part d'un très bon sentiment, et je le pense, sur le fond. Donc, il est effectivement utile pour le consommateur que telle ou telle performance soit exprimée au travers d'une mesure qui s'effectue suivant une norme qui nous est imposée, à nous l'industrie.
C'est la même chose pour le réfrigérateur, pour la plupart des biens d'équipement.
Tous les biens d'équipement qui font du bruit, ou qui consomment de l'énergie ou de l'eau, etc. Donc ça part d'un bon sentiment. La problématique, c'est que quand vous voulez mesurer ces performances, vous avez à définir ce qu'est le cycle que vous allez utiliser pour mesurer cette performance. Exemple, si vous achetez une machine à laver, quel est le cycle de lavage que vous allez prendre en référence pour annoncer la consommation d'énergie? Ou est-ce que vous en prenez plusieurs?
Donc ça dépend des conditions d'utilisation.
Voilà. Et le cycle de mesure de cette performance, donc là, dans le cas que vous citez, les émissions qui sont en relation avec la consommation du véhicule, le cycle n'est pas le choix des constructeurs. Le cycle, il est imposé par la norme. Il faut que le consommateur le comprenne, surtout que le citoyen le comprenne. Lorsqu'on vous communique une information sur une émission de CO2 qui résulte de la conso, c'est suivant un cycle qui nous est imposé. D'accord. Vous avez constaté, les consommateurs ont constaté qu'il y avait un écart entre ce cycle et l'utilisation réelle, tout simplement parce que le cycle, il est simplifié. Le cycle ne tient pas compte de tout un tas de conditions de fonctionnement qui sont plus larges. Raison pour laquelle, à un moment donné, nous avons mis sur nos sites internet, pour nos différentes marques, la possibilité de mesurer ces émissions et ces consommations suivant un cycle qui soit beaucoup plus représentatif de l'usage. Et donc, vous pouvez vous-même calculer quelle sera votre consommation en fonction de votre usage. Mais sachez que l'accusation qui est faite aux entreprises automobiles de ne pas communiquer la consommation réelle, elle est injuste.
D'accord.
Parce que nous vous communiquons cela sur la base d'un cycle qui nous est imposé.
Alors permettez-moi de rebondir là-dessus. Est-ce qu'au final, en termes d'approvisionnement aux matériaux de fabrication justement des batteries qui vont assurer une autonomie et l'accessibilité à un Français de classe moyenne, Est-ce que les questions de cycle de vie sont prises en compte? Est-ce que le recyclage est pris en compte? Est-ce que finalement, même l'impact CO2 va être réel?
C'est la question fondamentale. La question que vous posez, c'est est-ce qu'on va continuer à raisonner du réservoir à la roue sur le seul objet de la mobilité, ou est-ce qu'on va raisonner sur l'ensemble du cycle de vie, c'est-à-dire en tenant compte de l'empreinte carbone d'extraction des matières premières,
jusqu'au
de l'empreinte carbone
la
de
exactement.
Fabrication jusqu'à de la batterie, jusqu'au recyclage. La raison aujourd'hui, la réponse qu'on peut vous faire aujourd'hui, c'est que la décision des pouvoirs publics a été de communiquer sur le seul objet de mobilité. Et donc, d'accord. Vous avez tout à fait raison. Il faut qu'on passe de l'objet de mobilité à l'ensemble du cycle de vie qui intègre toutes les composantes que vous avez évoquées. Et ça encore, vous voyez, c'est un débat de société pratiquement. Parce que si on fait ce que vous suggérez, et moi j'y suis en tant que citoyen favorable, on va déplacer le problème des objets de mobilité vers le mix énergétique.
Exactement.
Et donc vous aurez à statuer sur la question de savoir si vous voulez ou pas du nucléaire et sur ce que vous faites des déchets nucléaires, entre autres. Mais vous voyez que le débat, il va rapidement bouger. Et
oui.
Les constructeurs automobiles, ils sont en train de s'extraire de ce débat. Parce que pour ce qui est du réservoir à la roue, on va vous fournir des objets qui sont zéro émission.
Et c'est vrai que la situation n'est pas la même en Pologne et en France, ça
exactement,
c'est sûr.
Exactement.
Votre dernière question.
Pour finir, j'aimerais vous poser une question plus personnelle, deux questions. Si vous deviez rouler dans une voiture d'une marque concurrente, laquelle choisirez-vous? Et si vous aviez une machine à remonter le temps, quelle voiture aimeriez-vous conduire? Merci.
Voilà deux questions difficiles. La première, je ne me suis pas vraiment posé la question. Ça, c'est juste. C'est juste de lire, parce qu'avec 14 marques, pourquoi est-ce que j'irais en choisir une qui n'est pas dans les 14?
Ah, la question est quand même posée.
La question est posée, je ne sais pas vous dire. Peut-être, probablement, une marque d'une des entreprises pour lesquelles j'ai travaillé dans le passé.
D'accord.
Donc, je peux vous donner cette indication, probablement. Surtout dans mes activités.
C'est une Renault, on ne sait pas laquelle.
Ça pourrait être une Nissan, pourrait être un pick-up pour mes activités de viticulteur.
D'accord.
Ça pourrait être des choses comme ça. Probablement ça, si c'était une des 14 marques. Mais c'est bien peu probable, parce que j'ai large choix dans mes 14 marques.
Et dans le passé?
Dans le passé, moi, j'ai été un privilégié. Ma première voiture, ça a été une Alfa Romeo. C'est assez rigolo. Elle fait partie du groupe Stellantis. J'ai appris à conduire avec ma maman au volant d'une Fiat 127. La marque Fiat fait partie du groupe Stellantis. Et j'ai, pour la première fois, conduit en dehors des frontières du Portugal au volant d'une Opel Manta, qui fait
aussi
partie
dans le groupe
Stellantis.
Bon, ça tombe bien quand même.
Donc, vous voyez, tout ça, ça prouve simplement que la vie est merveilleuse. Elle est faite de coïncidences et de
exactement.
Choses incroyables.
Merci à vous, Carlos Tavares. C'est la fin de cette émission. La semaine prochaine, il n'y aura pas d'émission car le Festival de Cannes sera à l'honneur et c'est formidable pour la soirée de clôture. Mais nous nous retrouverons dans deux semaines avec Olivier Boggio, dirigeant de Sanofi. Il me reste à remercier Théo Raison, notre réalisateur, Yann Fressy à la technique, Lionel Stéman des Échos et l'équipe du Cercle des économistes avec qui nous avons sélectionné les étudiants qui sont avec nous, étudiants que je remercie. Bonsoir à tous.